Info matin, Nicolas Legrand.
Laurie Oumouni rentre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle récupère les secteurs de la construction et de l'habitat et cela fait grincer des dents. Vous entendrez Christopher Gigès dès le début de ce journal. Un chauffard et sa compagne arrêtés, âgés de 24 ans, il a reconnu un refus d'obtempérer à la fois samedi dernier. Il a percuté et blessé un gendarme pour pouvoir prendre la fuite. L'actualité nationale, le gouvernement nommé la semaine prochaine. Michel Barnier recevra d'ailleurs les potentiels futurs ministres pour des entretiens en tête-à-tête à partir de ce week-end. À l'étranger, Kamala Harris donnée gagnante du débat télévisé hier aux États-Unis. Donald Trump lui dénonce une émission truquée. Dans les sondages, les deux prétendants à la Maison-Blanche restent au coude à coude. Les sports et retour sur les performances des Calédoniens hors du territoire dans ce journal. Ils ont obtenu de très bons résultats en triathlon le week-end dernier. Vous entendrez aussi nos deux jeunes kitesurfers, Phoebe Rocher, championne du monde, et Antoine Olivier, vice-champion du monde. La météo en Nouvelle-Calédonie, aux Loyautés, sur l'île des Pins et la pointe sud, alternance entre nuages et éclaircies, avec quelques gouttes d'ailleurs par endroit. Ailleurs, le soleil domine plus largement. L'alizée de sud-est souffle jusqu'à 30 nœuds en rafale. Les températures sont supérieures au normal, avec 26 à 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité sur le territoire.
Oui, et Laurie Oumouni qui est donc membre du gouvernement. Elle succède à Vaimua Muliava qui a démissionné donc le 28 août dernier. Elle participait d'ailleurs hier pour la première fois à la séance hebdomadaire du gouvernement, Jean-François Bodin.
Un baptême du feu pour la secrétaire générale du RDO qui est désormais membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui s'est vu affecter ses missions d'animation et de contrôle. Globalement, elle récupère les attributions de son prédécesseur, c'est-à-dire qu'elle a en charge des secteurs de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens, de l'urbanisme et de l'habitat. Elle est également chargée du secteur de la fonction publique. Elle assure ainsi la coordination et la mise en œuvre de la modernisation de l'action publique. Laurie Oumouni est enfin chargée de la transition numérique de la Nouvelle-Calédonie ainsi que du développement de l'innovation technologique. Un seul secteur, auparavant détenu par Vaimua Muliava, a été récupéré par le président du gouvernement Louis Mapou. C'est celui du suivi des relations avec les collectivités d'outre-mer du Pacifique. Une attribution de secteur qui n'a pas fait l'unanimité au sein de l'exécutif, nous a dit Christopher Gigès.
Oui, elle a récupéré les secteurs de son prédécesseur. On a souhaité voter contre les membres du gouvernement non indépendantiste, à l'exception de Calédonie Ensemble, puisque pour ce qui me concerne, je considère que la place de Mme Oumouni est certainement pas au gouvernement, avec les propos qu'elle a tenus récemment sur les exactions qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, et quand elle récupère les secteurs de la construction et du logement, c'est un peu se moquer des gens qui ont subi ces dernières exactions. Donc on a souhaité s'opposer à cette répartition des secteurs qui ont été acceptés à la majorité. Sur son comportement, on n'a pas été déçus de ce qu'on avait pu constater ces derniers jours. On a constaté une personne qui n'avait pas beaucoup de respect et d'humilité pour l'institution, puisque généralement quand un nouveau membre arrive, il essaye de comprendre comment l'institution et l'exécutif fonctionnent. Et là, on a eu une personne qui ne se remet pas beaucoup en question. Et je pense que les relations ne vont pas être simples dans l'avenir.
Elle a les secteurs de Vaimua Muliava à l'exception des relations avec les îles du Pacifique. Hein, c'est bien ça?
Oui, exactement. Et je salue la décision du président du gouvernement qui a souhaité récupérer ce secteur, puisque Mme Oumouni est en charge des relations avec les îles du Pacifique. On aurait eu vraiment de la politique politicienne sur ce secteur-là. Je préfère que ce secteur revienne au président du gouvernement qui sera beaucoup plus neutre dans l'approche de ses relations avec nos voisins.
Des propos recueillis par Elisabeth Noir. Laurie Oumouni récupère donc les secteurs de Vaimua Muliava, à l'exception des relations avec les collectivités du Pacifique, qui est traditionnellement un secteur dévolu au président de l'exécutif.
Et j'ajoute que lors de cette séance du gouvernement, eh bien, il a par ailleurs été déclaré l'état d'urgence climatique et environnementale. Il met ainsi en œuvre un vœu adopté par le Congrès le 23 décembre 2019. Cette urgence s'appuie, je cite, sur une stratégie calédonienne du changement climatique pour engager le territoire sur une trajectoire de résilience face aux effets de ce changement climatique. Cette stratégie a déjà permis la tenue du premier forum calédonien du changement climatique. C'était le 18 avril dernier. Un forum qui doit se réunir une fois par an. Le gouvernement propose également de créer le fonds de résilience calédonien du changement climatique. Il ambitionne de financer les actions qui entrent dans le cadre de la stratégie calédonienne du changement climatique en recueillant des financements extérieurs et de grandes fondations nationales, régionales et internationales qui sont donc intéressées par la Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici donc notre question du jour. Êtes-vous choqué que la secrétaire générale du RDO, Laurie Oumouni, soit en charge au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des secteurs de la construction et de l'habitat ? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 57% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que c'est le Premier ministre qui, au plus haut niveau de l'État, doit s'occuper en priorité du dossier calédonien. Ils sont donc 43% à penser que c'est le président de la République qui doit s'en occuper. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, toujours dans l'actualité institutionnelle, l'Assemblée de la province Sud se réunit ce matin en séance plénière. Il sera question des finances de la collectivité avec la décision modificative numéro 2 du budget 2024. Les élus devront également se prononcer sur des délibérations qui portent sur la fermeture du collège de Rivière-Salée ainsi que sur la gestion des déchets issus des chantiers de démolition et de construction des entrepôts ou encore des entreprises incendiées ou saccagées pendant les émeutes.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h36.
L'actualité judiciaire maintenant, un couple de Canala a été arrêté après le refus d'obtempérer de la foi. Samedi dernier, une voiture a forcé un contrôle routier. Le chauffard a percuté un gendarme. Une information judiciaire sera d'ailleurs ouverte aujourd'hui pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ça concerne le conducteur mis en cause. Et sa compagne, qui était passagère, est quant à elle visée pour une information judiciaire pour complicité de tentative de meurtre, Léo Fichou.
Les faits ont eu lieu lors d'une opération anti-délinquance mise en place à la demande du procureur de la République, Yves Dupas. Vers 18h20, samedi soir, trois véhicules se présentent sur la zone aménagée pour être contrôlés. L'un des conducteurs, âgé de 24 ans, n'a pas le permis de conduire. Il décide alors de prendre la fuite pour échapper aux gendarmes. Il redémarre en trombe en montant sur le trottoir et percute de plein fouet le gendarme situé en poste d'appui. Puis, un kilomètre plus loin, il est de nouveau tombé sur un dispositif de gendarme muni d'une herse. Il a de nouveau foncé sur un militaire qui a réussi, lui, à éviter la collision en se réfugiant derrière son véhicule de service. La voiture a ensuite pris la fuite à vive allure en direction de Canala. Quelques heures après les faits, elle était retrouvée stationnée à la tribu du Grand Coulis à Saraméa. Le conducteur qui vit à Nakheti et sa compagne ont été arrêtés mardi dernier. Ils ont été entendus dans le cadre d'une garde à vue et seront présentés au magistrat instructeur dans la journée. Au cours de ces auditions, ce chauffard connu de la justice a déclaré ne pas avoir voulu tuer l'agent des forces de l'ordre. J'ajoute enfin que le gendarme a été blessé sur plusieurs parties du corps après avoir été projeté sur le capot de la voiture lors du choc. Pour le moment, son état de santé justifie une incapacité totale de travail de 10 jours.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, c'est d'ailleurs le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, Bruno Dalle, qui sera tout à l'heure notre invité du matin à 7h30. L'occasion de faire un point avec lui sur la politique pénale mise en place depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et puis le secteur du tourisme pâtit lui aussi des effets générés par les émeutes. L'absence de touristes, auxquels il faut aussi ajouter des difficultés à bénéficier des aides mises en place, constitue des défis pour les acteurs de ce secteur. Eh bien, nous en parlerons ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra notamment Vaya Frogier, présidente du syndicat des agences de voyage, et Raphaël Larvor, il est directeur du développement économique et du tourisme à la province sud. Il est 6h passées de 39 minutes, l'actualité en métropole et ça s'accélère. Michel Barnier qui va nommer son gouvernement la semaine prochaine, on en parle juste après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La Chambre d'agriculture et de la pêche vous invite au Grand Marché Broussard organisé sous la Halle de Ducos samedi 14 septembre de 7h à 16h. Au menu du jour, des produits locaux, de la restauration, des animations et bien plus encore.
La Maison du Pain Calédonien, votre boulangerie du Complexe Le 4, vous accueille du lundi au vendredi de 6h à 17h et le samedi de 6h à midi. En plus des viennoiseries, des formules petit-déjeuner et formules du midi, vous y trouverez des pains fraîchement sortis du four à toute heure de la journée.
Complexe Le 4, au 186 rue Jacques Yekawe. Faites vos courses autrement.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et c'est donc bientôt la fin du suspense. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier continue ses consultations des groupes politiques. Mais ça devrait s'accélérer le week-end prochain, puisqu'un gouvernement devrait être annoncé la semaine prochaine, Arthur Delaborde.
Oui, pour la première fois, Michel Barnier a donné une échéance précise cet après-midi après sa rencontre avec les parlementaires Horizon.
J'ai rencontré la plupart des présidents de groupe. Je continue et je viens visiter les députés, les sénateurs, les écouter aussi. Et la semaine prochaine, nommera le gouvernement.
La semaine prochaine, perspective aussitôt nuancée. Ce n'est pas un engagement, mais un objectif que se fixe le Premier ministre, explique son entourage, qui assure qu'à ce stade, il n'y a pas encore eu d'échange direct entre Michel Barnier et de potentiels entrants au gouvernement. C'est ce week-end qu'il doit entrer dans le vif du sujet, avec des entretiens en tête-à-tête avec de possibles futurs ministres. Il y aura vraisemblablement des LR à des postes clés, des membres également des trois composantes du camp présidentiel, Renaissance, Modem et Horizon. En revanche, même si Michel Barnier a ouvert la porte à des personnalités de gauche, il aurait du mal à trouver des candidats sérieux. Seule certitude à ce stade, il y aura de nouvelles têtes. Le Premier ministre le martèle, ce n'est pas un remaniement, mais bien un nouveau gouvernement qu'il est en train de préparer.
Arthur Delaborde pour Europe 1. Cette nuit, vous venez de l'entendre, Michel Barnier a rencontré le parti d'Édouard Philippe. Et de l'avis unanime des membres d'Horizon, les discussions se sont très bien passées avec le nouveau Premier ministre. Édouard Philippe qui n'hésite d'ailleurs pas à apporter son soutien à Michel Barnier.
C'est un bon choix parce que Michel Barnier, c'est un homme expérimenté, méthodique, droit, qui sait ce que c'est que la discussion et le compromis, qui sait être ferme aussi, qui rassure nos partenaires européens, ce qui, à mon avis, a du sens. Dans cette situation inédite, il est probablement le mieux placé pour essayer d'avancer, de faire avancer le pays.
Édouard Philippe qui était donc l'invité de BFM TV. J'ajoute que le président de la République, lui, a pris la parole devant le Conseil d'État. Il est revenu notamment sur la nomination de Michel Barnier puisqu'il participait à la rentrée de l'institution. Dans le reste de l'actualité en métropole, une décision de justice qui fait polémique. Le motard qui a mortellement fauché la petite Camilla à Valoris dans les Alpes-Maritimes reste libre. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de maintenir son contrôle judiciaire. Une décision inacceptable pour le père de la petite fille.
Ce comportement de la justice, en fait, je ne comprends pas. En fait. Il y avait le policier, le gendarme. Il y avait après ma fille. Et après, il y a eu le cycliste. Après, il y a eu l'agent qui s'est fait tirer dessus. Hier, il y a eu un jeune encore mort par une voiture. En fait, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et tout ça, tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune loi stricte et ferme. Parce que tout le monde fait n'importe quoi, parce qu'on sait que voilà, on risque rien.
Et même si l'avocat général avait donc requis le placement en détention de ce jeune à moto, la cour en a décidé autrement. Alors comment les magistrats expliquent-ils leur décision, Frédéric Michel?
Par l'application stricte du droit, si la cour ne peut que constater le trouble à l'ordre public, elle précise que cela ne peut conduire au placement en détention provisoire. En matière correctionnelle, la loi a en effet changé il y a quelques années. À l'inverse du parquet de Grasse et de l'avocat général, elle estime qu'il n'y a pas de risque de récidive. Les juges des libertés et de la détention avaient déjà en première instance fait le même constat et soutenu que les éléments essentiels de l'enquête avaient été recueillis, que Matteo était dans l'incapacité d'interférer sur ces éléments et d'exercer des pressions. Les magistrats de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence juge donc le contrôle judiciaire suffisant. Ce maintien en liberté ne signifie pas que Matteo échappe à toute sanction. Il sera jugé ultérieurement. Il encourt 7 ans de prison, car dans ce dossier, la justice pourrait retenir une circonstance aggravante. Le jeune homme dit avoir fait involontairement une manœuvre qui l'a mené sur une roue. Ce sera tout l'objet de l'instruction. Il faudra aussi déterminer à quelle vitesse roulait Matteo, à 30 km/h, comme il le dit, ou beaucoup plus. Son avocate, maître Leila Montini.
Des éléments techniques qui seront débattus dans le cadre de l'instruction, qui seront évoqués devant le juge d'instruction. L'expertise qui sera faite sur le véhicule permettra de faire la lumière sur ces points.
Ce matin, Matteo savait qu'il pouvait partir en prison. Il est arrivé avec un gros cabas, mais il est donc ressorti libre, entouré de ses parents et de son avocate.
Frédéric Michel pour Europe 1.
Info matin, 6h44.
L'actualité à l'étranger maintenant, les sondages les donnaient encore avant-hier au coude à coude. Cela risque peut-être de changer au cours des prochains jours. Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés hier soir pour nous à la télévision. Une demi-heure de débat qui a fini par tourner à l'avantage de la vice-présidente démocrate Aviva Fried.
Oui, dès le début, Kamala Harris est passée à l'offensive contre Donald Trump. Elle l'a critiqué très vivement sur son bilan désastreux du Covid, ses ambiguïtés sur l'avortement, lui a rappelé sa responsabilité dans l'attaque du Capitole et surtout, elle a insisté sur un point très sensible pour Donald Trump, l'image qu'il projette.
Donald Trump a été viré par 81 millions de personnes. Les dirigeants du monde entier se moquent de Donald Trump. J'ai discuté avec des hauts gradés de l'armée, dont certains ont travaillé avec vous. Ils disent que vous êtes une honte.
Des pics qui ont touché leur cible. Donald Trump s'est montré excédé. Il semblait ne pas savoir comment réagir à son adversaire. Il a tenté de lui faire porter la responsabilité des politiques de l'administration Biden en prédisant qu'elle serait porteuse d'apocalypse.
Elle détruit ce pays. Et si elle devient présidente, ce pays n'a plus aucune chance de réussir. Ça va devenir comme le Venezuela sous stéroïdes.
Pas sûr cependant que ces prestations fassent bouger les choses. Les deux candidats sont pour l'instant toujours au coude à coude.
Et Donald Trump qui s'en prend donc aux journalistes de ABC qui n'ont pas contredit suffisamment son adversaire selon lui. Il parle d'un débat truqué. Les deux adversaires en tout cas se sont ensuite retrouvés pour les commémorations des attentats du 11 septembre. Il est 6h46, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la sécheresse et le risque feu de forêt.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box, un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
Chris Optique Beretti, agréé tiers payant mutuel, aide médicale, carte senior, paiement en trois fois, votre deuxième paire offerte, test de la vue, accueil, écoute, conseil. Chris Optique Beretti, 60 avenue de la Victoire. La confiance vous va si bien.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Excellent début de journée, la suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et les conditions climatiques qui sont donc particulièrement propices à la propagation des feux de brousse. La Foix et Boulou-Paris sont d'ailleurs aujourd'hui en risque extrême. Le reste du territoire est en risque très élevé. Hormis Bélep, Koumaka, La Gomène ainsi que Dimbéa, Le Mont d'Or et Yaté, les Loyautés et l'île des Pins qui sont également en risque élevé. À Bouraille donc en raison de ces conditions, le domaine de Deva qui est très prisé des visiteurs est fermé jusqu'à nouvel ordre. Un arrêté municipal a été pris en ce sens. Écoutez le maire de Bouraille, Patrick Roblin.
Là, la sécheresse est un peu en avance. Nous sommes en risque extrême sur la commune de Bouraille, donc en risque rouge. Il faut être extrêmement prudent parce que vous imaginez bien que si le feu prend sur le domaine de Deva, par exemple, avec les vents que nous avons en ce moment, eh bien, le feu va parcourir des dizaines de kilomètres en une seule journée. Donc, il faut être extrêmement prudent, oui. Surtout le domaine de Deva, oui, c'est un des plus grands espaces où il y a des chemins, mais il n'y a pas de route qui peuvent stopper l'avancée des feux. Lorsque nous sommes en risque extrême, il est conseillé de fermer les accès aux massifs forestiers qui sont sensibles. Donc on considère que le domaine de Deva est un site extrêmement sensible, surtout situé en bordure de littoral, où il y a toujours beaucoup de vent. C'est le vent qui est dangereux. Ça serait une catastrophe écologique si le feu prend ce domaine.
Et sur la commune de Farino, qui est placée en vigilance orange, risque donc très élevé. L'accès au parc des Grandes Fougères est également restreint aux sentiers, privilégiant uniquement les parcours les plus courts. Et puis une belle aventure à venir pour les élèves du lycée Escoffier. 30 étudiants de première année de BTS, hôtellerie et restauration débuteront leur stage de 4 mois le 23 septembre prochain. Alors je disais aventure puisque cette année, Léana Colombo, ils sont 22 à effectuer leur stage en dehors de la Nouvelle-Calédonie.
Et oui, ils s'envolent en métropole, à Monaco ou encore en Nouvelle-Zélande. 22, c'est beaucoup plus que l'année précédente où il n'y était que 12 à partir en dehors du territoire. Un choix forcé en vue de la situation des restaurateurs locaux, mais aussi de l'absence de transport en commun sur le territoire. Fretch et Nicolas sont étudiants en première année de BTS hôtellerie et restauration. Ils ont hâte de débuter leur stage, mais sont aussi un peu anxieux. Et on écoute leur témoignage.
Moi, je vais effectuer mon stage en faïence. C'est un hôtel 5 étoiles. Ça va plus m'approfondir dans mes faits et gestes, plus rapporter des compétences aussi. C'est un défi. C'est vrai que les clients en France, ils sont un peu exigeants, mais sinon, ça va.
Alors moi, je vais à Monaco, au Casino Monte Carlo. Très excité, en tout cas. J'ai très hâte de partir. J'espère que ça va m'ouvrir l'esprit, le fait de partir et avoir un bon savoir culinaire.
Je vais faire mon stage à l'hôtel du centre, au restaurant de la Pergola. Je suis quand même un peu contente parce que je vais rester là auprès de ma famille et pas être loin. Je suis plutôt rassurée. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir un stage près de chez moi parce que pour moi, le transport, c'est un peu difficile. Comme nous, on n'a pas de voiture et moi, le matin, je me déplace en taxi. Je stresse un peu, mais après, je crois que ça va aller.
Le départ des étudiants est financé par la continuité territoriale et la province sud. Au total, 22 partent et 8 feront leur stage en Calédonie. Ils auront l'occasion de s'exercer aux techniques de management dans les domaines de la cuisine, de service ou d'hébergement pendant une durée totale de 4 mois.
La ville de Dimbéa se mobilise pour lutter contre l'illettrisme. Jusqu'à demain, la commune organise au sein de sa médiathèque plusieurs activités pour aider les personnes qui auraient des difficultés à lire, mais aussi à compter. Hier après-midi, une trentaine de personnes s'étaient donné rendez-vous pour apprendre de manière ludique, notamment grâce à des jeux comme le Scrabble. Une démarche pas toujours facile d'ailleurs à envisager et très souvent empreinte de honte, comme nous l'explique Marie-Yvonne Raguet, la responsable de la médiathèque de Dimbéa.
C'est jamais facile d'admettre qu'on est en situation de difficulté face à la lecture et face à l'écriture dans une société où on est très consommateur d'écran. Et quand on vient à la médiathèque, on essaye plus ou moins de s'accrocher à ça parce que lire, c'est aussi une forme de militantisme, c'est aussi de façon intime. Donc les gens ne viennent pas nous dire « je ne sais pas lire » ou « je n'arrive plus à lire ». On ne pointe pas du doigt une personne en particulier parce que ce sont souvent des personnes qui vont rentrer dans des groupes. Donc, on prend le groupe en entier. On les invite à venir participer aux animations qui se font en groupe aussi. L'idée est de ne pas les isoler encore plus dans leurs difficultés.
En province nord, quelques actions ont également été relayées, mais en province sud, seul Dimbéa a organisé des activités pour honorer ces journées nationales contre l'illettrisme. Il faut dire que l'opération officielle sur le territoire a été décalée au mois de novembre en raison des événements de ces derniers mois. Il est 6h passé de 52 minutes, la dernière pause de ce journal, et on verra ensuite toute l'actualité sportive, et notamment on prendra des nouvelles de nos Calédoniens qui brillent ou qui ont des très bons résultats, au moins en dehors du territoire.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. En ce moment, complexe le 4, 200 000 francs de courses à gagner chaque mois. Vos courses pourraient vous rapporter gros. Alors vite, rendez-vous dans les enseignes du complexe le 4, c'est local, c'est gel et la Maison du Pain pour tenter votre chance.
Le 4.
186 rue Jacques Yécaoué, 4e kilomètre.
Une autre façon de faire vos courses.
Règlement déposé chez Maître Citrita.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et des rendez-vous donc à signaler pour aujourd'hui dans l'actualité sportive. On parle de football avec le deuxième match de la sélection féminine des moins de 16 ans au tournoi océanien, Léo Fichou.
Et oui, après s'être incliné face aux Néo-Zélandaises 8-0 lundi, les jeunes Cagous affrontent les îles Salomon début d'après-midi. Coup d'envoi de la rencontre à 14h. Victoire obligatoire donc pour les Cagous qui, si elles veulent continuer de croire à la qualification pour les demi-finales, le match est à suivre en direct sur le site internet de la FIFA.
Du football toujours, mais sur le territoire cette fois-ci, avec la suite de la quatrième journée du trophée du Grand Nouméa.
Oui, suite et fin, à 18h, Melec affronte Horizon Sport, et puis à 19h45, Magenta jouera contre l'AS Wetch. Horizon Sport et Magenta qui tenteront de récupérer la première place à Tigasport, tenue en échec par Gaïcha mardi soir.
Et puis je le disais tout à l'heure, c'est une période bien remplie pour les sportifs calédoniens en dehors du territoire, et on commence avec du triathlon, Léo.
Oui, les triathlètes qui, d'autant plus en manque de compétition en Calédonie, en raison du contexte actuel, ont réalisé de belles performances. En Polynésie française, d'abord, 6 Calédoniens étaient engagés sur le Swim and Run XL de Moréa. Alexandre Bressy et Julien Delrieux l'ont emporté. Clément Nuntz et Antoine Guyonneau ont terminé 3e. Chez les féminines, Christine Libon et Charlène Guigné ont fini à la 5e place. Éric Broutet, Jeff Burke, Bernard Lègle et Eric Savignac étaient eux aux mondiaux de triathlon longue distance à Townsville en Australie. Bernard Lègle a terminé sur la 3e marche du podium de sa catégorie d'âge. Nicolas Sisielski a terminé l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne avec une qualification pour les mondiaux de Taupo en Nouvelle-Zélande en décembre prochain. Pour Eric Savignac, le nouveau président de la Ligue de triathlon, c'est signe que les meilleurs pratiquants gardent leur motivation intacte.
On a toujours eu des triathlètes
à la Pro Elite ou aux groupes d'âge qui ont participé à des compétitions dans le Pacifique, voire même plus loin. Ça, effectivement, cette année, encore plus, ça fait vraiment plaisir. Ils continuent à représenter la Nouvelle-Calédonie au travers de toutes ces compétitions. On a toujours plus de 300 licenciés. On a eu une réunion la semaine dernière avec l'ensemble des présidents qui sont toujours motivés pour l'organisation de différentes compétitions. On a aussi des échéances, notamment pour nos sportifs élites, sur les mini-jeux, également les jeux. Donc on ne baisse pas les bras, c'est une source de motivation et on arrive à trouver des solutions, on s'adapte.
Il y aura encore des grands rendez-vous à venir pour les Calédoniens, notamment avec l'Ironman d'Hawaï en octobre. En attendant, la Ligue de triathlon travaille déjà à l'organisation de compétitions sur le territoire dès que les conditions le permettront.
Et puis on en parlait déjà sur notre antenne ce week-end. En kitesurf, les jeunes Calédoniens ont tout simplement brillé la semaine dernière au championnat du monde junior et ce n'est pas fini pour eux puisqu'ils ont un calendrier très chargé.
Et oui, sur le spot de Tarifa dans le sud de l'Espagne, la triple championne de France, Phoebe Rocher, a décroché le sacre mondial. Une belle revanche pour la Calédonienne qui avait terminé 3e en 2022 et en 2023. On l'écoute.
Je suis vraiment super contente. C'était mes plus gros objectifs pour 2024. C'est une super façon de terminer mes années en compétition junior. Et j'ai travaillé fort toute l'année pour atteindre ce titre. Et c'était juste un moment incroyable de réussir à l'avoir, quoi. Là, cette année, j'ai finalement pris ma revanche et j'ai le résultat que je voulais, quoi.
Juste après la finale de Phoebe Rocher, c'était au tour d'Antoine Olivier, champion du monde junior en titre. Il a malheureusement terminé sur la deuxième marche du podium cette année. Un peu de déception pour lui, mais beaucoup d'espoir pour la suite chez les seniors.
La première sensation que j'ai eue à la fin de mon hit, c'était forcément un peu de déception, hein, parce que c'est sûr que j'avais envie d'être champion du monde une deuxième fois. C'était mon objectif, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les prochaines échéances, c'est en octobre. Pour les championnats de France, où là je vais participer donc chez les juniors pour la dernière année et je vais aussi faire chez les seniors. Tant qu'à y être, on verra exactement comment ça se goupille, mais voilà. Et après, pour les championnats du monde seniors, donc ça va être au Brésil et ça va être en novembre.
On retrouvera donc les jeunes Calédoniens Antoine Olivier et Phoebe Rocher en octobre au championnat de France junior et senior. Et ensuite, il y aura toute la saison à venir en senior.
Merci Léo Fichou. Et on termine par cette information qui concerne le sport national. On a appris cette nuit le décès de Didier Roustan, figure du journalisme sportif. Il est décédé hier à l'âge de 66 ans. Il luttait depuis des mois contre un cancer foudroyant au foie. La mort de Didier Roustan qui touche tout le milieu du sport et du football, notamment journalistes, clubs, entraîneurs, joueurs. Les hommages sont très nombreux sur les réseaux sociaux.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et le temps se couvre en tout cas sur Nouméa, Thierry.
Oui, ce matin, donc large soleil sur la côte ouest et l'extrême nord, ça se voit pas encore. Sur les autres régions, quelques nuages circuleront. Le vent, lui, sera orienté au sud-est entre 15 et 20 nœuds, alors voire 20 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds, ce sera sur la pointe nord. Sur l'ouest, il sera plus faible en début de matinée, laissera place à un analysé de sud-est autour des 10 à 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds en fin de matinée sur les régions de Nouméa. Cet après-midi, au Loyauté, sur l'île des Pins et la pointe sud, alternance entre éclaircies et nuages, quelques gouttes par endroit. Ailleurs, le soleil dominera plus largement, espérons-le. L'alizée de sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, voire un bon 20 nœuds et des rafales toujours jusqu'à 30 nœuds cette fois, ça sera sur le sud de la côte ouest. Les températures sont supérieures au normal, entre 26 et 29 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. J'ajoute qu'il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc.